Bon, je commence tout de suite. Donc, ce qu'on avait prévu cet après-midi pour avant de se remettre en groupe pour travailler sur les ateliers, et donc avec les groupes qui ont été définis ce matin, c'était de faire un petit peu le point sur des travaux existants. Et d'essayer de voir des modalités de mise en commun et d'expérimentation collaborative de ressources, de construction et d'usage collaboratif de ressources. Et donc on a pensé présenter deux équipes de recherche, une que je représente ici et qui est Ecolab, donc expérimentation collaborative de laboratoire mathématique. Donc je vais expliquer un petit peu le contexte et les hypothèses de travail et puis ce sur quoi on est en train de déboucher. Et puis ECUM, et c'est Ghislaine qui prendra tout de suite après la présentation des choses. Alors on avait prévu au départ une discussion et un débat autour de ces deux approches, et puis bon, le bouleversement du calendrier a fait qu'on va présenter les choses et puis on se remet à travailler en atelier tout de suite après. Alors le travail de Ecolab, donc expérimentation collaborative de laboratoire mathématique, c'est le travail de toute une équipe qui est une équipe qui est situé dans trois endroits différents, qui sont à Paris, à Montpellier et à Lyon. Et ce que je vais présenter, eh bien, c'est de la manière suivante, hein, le contexte, les hypothèses de travail, vers la constitution d'un modèle de ressources et l'interconnexion, évolution des ressources et observation. Parce qu'il nous a semblé, il nous a paru, et puis dans cette expérience, on est arrivé à cette interconnexion, c'est-à-dire que les ressources ont évolué. On fait évoluer les modèles de ressources à partir des observations qui, du coup, ont fait aussi évoluer les modèles d'observation qu'on avait mis en place. Et tout ça, ça s'est construit autour d'un espace de travail dont je vous montrerai quelques éléments d'évolution. Alors, donc trois équipes distantes, Lyon, Montpellier, Paris, qui construisent et partagent des ressources. Et ces ressources sont utilisées dans les classes, ça veut dire qu'il y a effectivement quelque chose, un retour par rapport à l'usage dans les classes, et qui s'intéresse à l'introduction d'une machine complexe dans le cours de mathématiques. Donc en fait, les sept classes qui étaient qui étaient impliquées dans ce projet sont toutes équipées de calculatrices TI-Inspire, donc calculatrice qui intègre calcul formel, géométrie dynamique, tableur, texte, etc. Donc on s'intéresse à ce que ça peut changer dans le cours de mathématiques. Alors le contexte, c'est évidemment dans le prolongement de travaux qui existent et qui prenait en compte l'introduction de machines complexes dans la classe. Là, on est dans un niveau un petit peu différent. En particulier, la prise en compte des spécificités de la machine et dans le cadre théorique de la genèse instrumentale, mais aussi, et parce qu'on travaillait en commun et qu'on travaillait à distance, avec à partir de la notion de communauté de pratique. En particulier, bon, on verra les effets de cette communauté de pratique sur des objets construits dans les équipes et pour l'équipe. Alors, de fait, les hypothèses, eh bien, elles sont de deux ordres. D'une part, elles concernent l'utilisation de la calculatrice en classe, et ça, c'est effectivement une des choses qui est importante. On a des évolutions techniques et des possibilités d'interaction entre registres de représentation et qui enrichissent les possibilités d'expérimentation, qui permettent un recueil de ce que font les élèves, des traces des élèves, mais qui en même temps amène des difficultés d'instrumentation, aussi bien du côté des professeurs que du côté des élèves. Et puis le deuxième type d'hypothèse, c'est concernant le travail collaboratif, puisque, comme je l'ai présenté, le travail est fait en relation entre trois équipes distantes. Et donc, pour faciliter ce travail collaboratif, eh bien, on a mis en place un espace de travail commun, Et on a essayé de partager les ressources, c'est-à-dire que certaines, alors c'est évidemment, c'est un peu la base de ce qui a été construit, c'est-à-dire que une équipe construit une ressource et une autre s'en empare et la met en place dans la classe. Donc c'est à la fois au niveau de la conception de la ressource que aussi de la diffusion et de la mise en place et de l'utilisation dans la classe. Alors, voilà. Alors, en ce qui concerne les ressources qui ont été utilisées, eh bien, on a. Bon, je présente très rapidement un peu le typologie des ressources qui ont été mises en place dans les classes. Tout d'abord, il y avait une présentation puisque la machine, au moment où l'expérimentation a commencé, la machine était à disposition des professeurs une dizaine de jours avant le moment où elle a été à disposition des élèves. Donc il y a une présentation nécessaire de l'artefact, et puis des situations d'apprentissage qu'on a pu classer en différentes parties, des activités de recherche, donc qui avaient comme objectif la présentation d'une nouvelle notion avec un habillage sur des narrations de recherche ou sur des devoirs, des introductions de notions clés du programme. Alors je ne l'ai pas dit, mais j'aurais dû, les classes travaillaient en classe, toutes les classes travaillaient en classe de seconde, donc il y a un certain nombre de notions qui sont fondamentales dans le programme de seconde, et ces notions devaient être introduites en utilisant cette machine, et puis également des situations d'apprentissage sur des situations périphériques. Alors on pourra, si on veut détailler un petit peu, eh bien on s'aperçoit qu'il y a quand même une différence de traitement des situations fondamentales, enfin des situations clés du programme de seconde, et puis des situations qui sont un peu plus périphériques sur lesquelles on aura des ressources de type un petit peu différent. Et puis enfin, la dernière chose qui était aussi importante, c'était des situations d'évaluation, tant du point de vue mathématique que du point de vue de la maîtrise de l'instrument. Donc, vers la construction d'un modèle de ressources, eh bien, d'abord, on s'est aperçu que les ressources ont été construites autour de ces constats, c'est que l'apprentissage mathématique et l'apprentissage technologique étaient étroitement liés, c'est-à-dire qu'il était difficile de faire une fiche ou quelque chose lié à l'apprentissage mathématique et de le déconnecter complètement de ce qui était lié à l'apprentissage technologique. Des choses assez élémentaires mais tout à fait importantes quand même à noter, c'est que les fiches papier et les retours sur le papier étaient des choses complètement indispensables. Et puis l'autre aspect, c'est qu'il y avait une volonté d'intégrer l'artefact dans la classe, c'est-à-dire que dans l'expérimentation, et les professeurs qui étaient engagés dans l'expérience avaient un cadre qui les obligeait qui leur imposait d'utiliser cette machine à l'intérieur de la classe. Non seulement une volonté, mais aussi un cadre institutionnel où on avait besoin d'intégrer à la classe et ensuite de partager les ressources, de mutualiser les ressources, puisque la construction de l'expérimentation avait été faite dans ce cadre. Alors, progressivement, les ressources ont évolué, en particulier avec une intégration de du fichier informatique et de la fiche élève. Alors là, on est dans le cadre de l'utilisation d'un instrument, d'une calculatrice complexe dans la classe, et les remarques que j'ai fait concernant l'interconnexion très importante entre les apprentissages technologiques et les apprentissages mathématiques ont imposé, de fait, une interconnexion également des fiches, donc du fichier informatique et de la fiche élève, qui se renvoyaient l'un à l'autre. Bon, alors après, d'une façon un peu pratique, eh bien, les fiches élèves ont été construites en trois colonnes, avec une colonne d'index qui précisait justement à l'intérieur du fichier informatique où l'élève était ce qu'il était en train de construire. Et puis, parce que sur cette calculatrice, les fichiers informatiques sont faits comme des pages successives qui peuvent s'appeler et se répondre. Et ben, par conséquent, il faut à chaque moment savoir exactement dans quelle page on est en train de travailler. Si on est en train de travailler dans un cadre géométrique, dans un cadre graphique, etc. Une deuxième colonne qui précisait les consignes données aux élèves progressivement, et puis la troisième colonne qui était liée à des manipulations et des conseils, très souvent reliés à l'utilisation de l'artefact. À l'intérieur de cette fiche également, ont été intégrées progressivement des phases de situation didactique, c'est-à-dire des phases qu'on reconnaît sur la théorie des situations, hein, des phases d'action, des phases de formulation, des phases de validation et d'institutionnalisation, qui ont été présentes à l'intérieur même des fiches distribuées aux élèves. Alors, par ailleurs, donc ça c'est pour vous montrer un petit peu l'évolution et le modèle des fiches qui ont été utilisées à l'intérieur de cette expérimentation. Et par ailleurs, eh bien il y avait des observations et les observations c'était des observations qui permettaient une validation interne des hypothèses. Hein, on n'avait pas d'autres moyens de travailler. Et puis qui aussi avait l'objectif de permettre une évolution des ressources. C'est-à-dire que les observations et les ressources étaient aussi interconnectées. En ce sens que c'est des observations de ce qui s'est passé en classe qui faisaient évoluer les ressources et l'évolution des ressources qui faisait évoluer le type d'observation dont on avait besoin pour le voir. Alors, les protocoles communs d'observation, il y avait plusieurs possibilités, plusieurs objectifs. Tout d'abord, au niveau de l'instrumentation, de mieux comprendre les potentialités qui étaient offertes par la calculatrice pour l'enseignement et pour l'apprentissage. Mais aujourd'hui, je n'en parlerai pas trop puisque c'est pas ce sur quoi je renvoie au travail d'Iva qui a même beaucoup développé. Les genèses instrumentales associées à cet artefact. Alors là, c'est aussi quelque chose qui était excessivement important parce qu'il y avait l'observation aussi bien du côté prof que du côté élève, étant donné que l'artefact était a priori quelque chose de nouveau pour prof et élève. Et puis les moyens de la gestion didactique, c'est-à-dire comment on va pouvoir utiliser cet artefact pour le transformer en instrument didactique à l'intérieur du milieu de la classe. Alors j'ai pris pour parcourir assez rapidement l'évolution d'une ressource. Alors je suis désolé, vous allez croire que je ne connais qu'un problème de mathématiques, mais j'ai pris celui-là d'abord parce que comme ça j'ai plus besoin de vous le présenter, vous le connaissez déjà par cœur, déjà que vous le connaissiez déjà depuis longtemps, et puis en plus j'en ai déjà parlé hier, mais je l'ai pris parce qu'il était assez typique de l'évolution qu'il y a eu en lien avec les trois équipes et puis en lien avec les observations. Donc au départ, c'est une situation c'est pas une situation problème. C'est un problème ouvert qui était présenté dans le bouquin d'Arsac, problème ouvert et situation problème. Et à Montpellier, les collègues l'avaient transformé en un devoir maison qui venait juste après l'introduction de la notion de fonction. Donc c'était une vision très très particulière de ce problème où on cherchait finalement la distance AM plus MB en fonction d'une variable X qui en l'occurrence ici était la distance IM. Et le fichier était un devoir maison, était proposé aux élèves pour essayer de fabriquer pas à pas la solution en utilisant la notion de fonction qui était toute fraîche et dans l'enseignement qui avait été donné. Alors ça avait été repris à Lyon par un collègue lyonnais, donc à distance, en reprenant ce devoir et en se disant ben moi je vais le transformer, mais je vais en faire une activité de classe. Alors l'activité de classe, elle avait été conçue avec un certain nombre d'objectifs d'apprentissage instrumental. C'était relativement au début de l'année et il y avait une volonté d'utiliser la calculatrice et la partie graphique, la partie géométrique de la calculatrice pour faire bouger les objets, pour arriver à prendre en main ces objets. Elle avait été conçue, comme je l'avais dit, avec un fichier élève et un fichier informatique où quelques éléments du problème étaient pré-enregistrés. Et puis, à partir du moment où on a commencé à discuter de cette ressource, de comment on allait la proposer, eh bien, on s'est aperçu que c'était une situation mathématique riche qui était un petit peu dommage de l'utiliser d'une façon aussi guidée où les élèves avaient finalement très peu d'autonomie et où finalement arrivé au bout de la fiche, eh bien on n'était pas sûr que les élèves aient compris exactement ce qu'ils étaient en train d'avoir construit, quoi. Donc ils avaient répondu à un certain nombre de questions, mais est-ce qu'ils avaient résolu le problème, ça on ne savait pas. Et donc on faisait même l'hypothèse que de cette manière-là, les objectifs mathématiques étaient suffisamment masqués pour que les élèves n'aient aucune raison de les découvrir. Donc on pouvait résoudre le problème sans savoir exactement ce qu'on faisait. Alors, on a commencé à retravailler en précisant les objectifs instrumentaux et en particulier en se donnant comme objectif puisqu'on avait cette idée de construire une ressource avec à la fois un aller-retour entre le papier et l'usage de la calculatrice. Et donc dans les objectifs instrumentaux, on a mis en avant la capacité pour les élèves de transposer un travail qui était fait sur papier crayon et de le transposer sur la machine, c'est-à-dire passer de l'utilisation du papier crayon à l'utilisation de la calculatrice et du cadre géométrique de la machine. Et puis également permettre aux élèves, donc dans les objectifs instrumentaux, faire en sorte que la machine en renvoie des feedbacks suffisamment clairs pour que ça donne aux élèves des éléments de contrôle sur la situation. Et donc du coup, pour faciliter, pour renvoyer une fois le travail fait sur la calculatrice, renvoyer les élèves à une nouvelle recherche sur papier-crayon et faciliter les allers-retours papier-crayon-machine. Voilà. D'un point de vue mathématique, ben là encore, on a essayé de préciser les objectifs mathématiques à un niveau méta et à un niveau des objets qui étaient travaillés. Alors, je rentre pas dans les détails parce que là, je prendrai tout le reste de l'après-midi pour détailler un petit peu et pour aller en profondeur. Donc, je reste un petit peu superficiel pour là, mais simplement pour vous montrer un peu cette évolution de ressources. Et donc, l'analyse a pris la ressource a évolué avec cette analyse a priori assez classique du scénario, d'une analyse mathématique, de fichiers élèves, fichier informatique qui a été conçu, donc le fichier informatique conçu comme une boîte noire, et puis fiches techniques qui sont donc du coup maintenant mis avec un S, et ce qui montre encore l'interrelation entre les objectifs instrumentaux et les objectifs d'apprentissage mathématique, puisqu'à un moment donné ben il y a plusieurs pistes et quand le problème est ouvert, et bien on peut imaginer que les élèves partent dans plusieurs directions, et donc à un moment donné ils vont avoir besoin d'un certain nombre de connaissances qui peuvent être soit des connaissances mathématiques, soit des connaissances techniques, instrumentales, pour leur permettre d'avancer. La ressource a évolué, mais toujours dans ce cadre que l'on donnait, c'est-à-dire avec les trois colonnes, pour donner les consignes aux élèves et éventuellement leur donner quelques éléments techniques d'utilisation de la calculatrice. Et Alors, cette première ressource qui avait été analysée d'une façon relativement fine a été mise en place dans les classes et observée. Et c'est à partir de là, qu'on a remarqué un certain nombre de choses, en particulier que malgré tous les efforts qu'on avait faits pour essayer d'arriver à un énoncé qui nous paraissait satisfaisant, eh bien, il était trop imprécis pour les élèves qui avaient des difficultés dans les objectifs qu'on mettait de passage de papier crayon à machine. Eh bien, il y avait des difficultés en particulier qui étaient liées à des notions de mesure, c'est-à-dire que les élèves mesuraient sur le papier crayon et puis mesuraient sur la calculatrice, et évidemment les mesures n'étaient pas tout à fait identiques, n'étaient même pas du tout identiques. Et donc du coup c'était une difficulté pour les élèves de passer d'un cas générique, d'un cas particulier à un cas générique qui était visé par notre activité, mais qui n'était pas suffisamment transparent pour que les élèves puissent s'en emparer facilement. Et de la même façon, on s'est aperçu avec l'observation qu'il y avait des difficultés instrumentales et que certaines réactions et difficultés des élèves étaient liées à une mauvaise pratique, enfin une pratique insuffisante de l'instrument, une instrumentation insuffisante. À partir de cette nouvelle observation, il y a eu un nouvel énoncé qui a été remis en place, et donc cette fois-ci observé, et on est arrivé à quelque chose d'un petit peu plus satisfaisant par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés, c'est-à-dire que d'abord il y a eu une dévolution importante de la part des élèves, et puis il y a eu des pistes assez nombreuses qui ont été mises en évidence, et donc du coup les fiches techniques qui avaient été préparées prenaient tout leur sens, puisque elles arrivaient précisément juste au moment où des élèves avaient besoin de tel ou tel élément pour pouvoir continuer dans la démarche qu'ils avaient choisie. Et donc les allers-retours entre le papier crayon et l'utilisation de la machine ont été remarqués et observés d'une façon assez précise. Dans les difficultés qui sont certainement encore une fois à retravailler, mais ça c'est au niveau des élèves, c'était les difficultés de changer d'application, c'est-à-dire le problème est posé dans un cadre géométrique, même si les élèves sont capables d'imaginer qu'il y a des solutions qui sont d'ordre analytique, l'utilisation de la calculatrice et le passage d'un cadre géométrique à un cadre analytique dans la machine ne va pas de soi, et il y a certainement encore des choses à travailler. Donc ça, c'était le point de vue de la construction de ressources et des observations et de l'évolution des ressources. Et puis, juste en 2 minutes, parce que je regarde en même temps la pendule pour pas dépasser le temps, l'évolution de l'espace de travail. Donc comme je vous le disais, il y a 3 équipes qui travaillaient à distance. Donc on avait mis à disposition un espace de travail sur le site EducMat, qui en 2006-2007 se présentait de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de rubriques qui étaient listées, et il fallait qu'on s'y retrouve. Et puis l'expérience a montré qu'on s'y retrouvait très très mal, c'est-à-dire qu'il y avait une interprétation qui était faite de chacun des répertoires qui étaient proposés, qui n'était pas transparent pour les utilisateurs, et on retrouvait, alors Iva avait fait un gros travail pour aller visiter tout ça et voir qui avait mis quoi à quel endroit, parce que on n'arrivait plus à retrouver effectivement toute la richesse qu'il y avait à l'intérieur. Et donc du coup on a essayé de travailler d'un point de vue ergonomique et à présenter l'espace de travail de la manière, alors là c'est encore sous forme d'arbre, je ne détaillerai pas chacune des rubriques qui sont là-dedans, mais ça permet apparemment un usage plus aisé de l'espace de travail, parce qu'il y a une entrée qui est plus claire et plus facile à utiliser. De la même façon, de point de vue des interactions, là j'ai pas mis un détail complet, mais il est intéressant de suivre. Alors ça, c'est aussi des choses qui sont intéressantes, peut-être qui seraient intéressantes à étudier d'une façon un petit peu plus fine, de suivre les interactions et les suivis des évolutions de chacune des ressources à partir des interactions d'une équipe par rapport à l'autre. Alors là, il me semble qu'il y a encore du travail à faire, mais au moins il y a eu deux objets réifiés dans ce travail qui ont été un rapport intermédiaire qui a été construit collaborativement entre les trois équipes, et puis un article qui va paraître assez prochainement dans la revue Repère, et qui a été construit aussi de cette manière-là, c'est-à-dire en utilisant l'espace de travail avec des allers-retours, des critiques et des remarques sur ce que les autres avaient pu écrire ou avaient envie de mettre à l'intérieur. Voilà, donc je termine juste avec ce petit schéma qui me paraissait être important du type de travail qui avait été construit à l'intérieur de Ecolab. Je laisse de côté ce qu'on en a déduit et ce qu'on en a fait avec les élèves au niveau de l'apprentissage et de l'enseignement des mathématiques et de l'usage de la calculatrice, mais je reste plutôt au niveau des interactions qu'il y a pu y avoir dans l'équipe pour essayer de se construire quelque chose qui soit utilisable. J'insiste bien sur cet aspect, puisque il y avait les classes qui expérimentaient et qui avait besoin de ressources, et ces ressources devaient être opérationnelles en échange d'une équipe à l'autre. Et donc, bon, le modèle de ressources est construit en même temps que le modèle d'observation, en même temps que les ressources pour la classe sont construites, et en interrelation avec l'observation. Et donc, on tourne et on est rentré dans un magnifique cercle dont on n'est pas tout à fait encore sorti, et je vous raconterai un peu plus tard la suite des opérations. Voilà donc pour Ecolab, je pense avoir tenu pile le temps. Voilà. Donc merci. Merci. Donc peut-être deux minutes s'il y a eu une ou deux questions qui se posent, si j'ai été un peu trop rapide sur des objets, je veux bien répondre. Sinon, je laisse la parole à Gisèle. Oui.
Non, juste une précision, Gilles. En fait, comme on a discuté ce matin sur peut-être les éléments essentiels pour présenter une ressource, ou alors un peu quel format pourrait être plus adapté à la diffusion ou même à la mutualisation. Et donc, j'ai pas eu trop le temps de regarder, en fait, c'était pas très évident pour moi de voir. Donc, il y avait une fiche technique et une fiche élève. C'est communiqué.
Et un fichier informatique, oui.
Ah, un fichier informatique et une fiche élève. Et dans le schéma là, c'est ressources pour la classe, que après il y a une flèche modèle de ressources. Ce qui a été retenu au bout des expérimentations, c'était ces modèles-là, en fait.
Oui, absolument, oui. Oui, ce sont ces modèles qui ont été retenus parce que opérationnels. Mais on ne s'intéressait qu'à d'assez loin à la diffusion, parce que le problème qui se posait, c'était une diffusion interne, et c'était à l'intérieur de cette équipe qui travaillait en commun, donc à l'intérieur d'une communauté bien particulière pour lesquelles il y avait un certain nombre de codes compris et pour lesquels on échangeait d'une façon assez naturelle, quoi.
C'est juste un prolongement.
Oui,
est-ce
oui.
que ça peut devenir oui. De ressources
Alors ça, c'est la question. Est-ce que
pour la formation, oui. éventuellement pour oui. Pour la classe, et que
donc. Alors, ce qui me paraîtrait intéressant maintenant, c'est de prolonger, c'est-à-dire de voir si les ressources qui ont été construites sont diffusables. Mais pour le moment, on n'a pas posé cette question. Ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'à l'intérieur des trois équipes, elles sont diffusables et partageables. C'est-à-dire qu'il y a la communication a eu lieu et a permis de prendre une situation, une ressource, et de la mettre en place dans la classe d'une façon effective. Ça a eu lieu avec des modifications, avec des histoires. Alors là, j'ai pris un exemple d'une ressource. J'aurais pu en prendre d'autres et vous montrer aussi. Comment chacune des équipes s'est emparée de la ressource pour la modifier un petit peu à sa sauce, quoi, si j'ose dire.
Travail qui pourrait être intéressante pour sortir du cadre de la recherche et du groupe lui-même, ouais. pour passer à
ouais. Alors,
transférer.
Oui, oui, oui. Il y a des éléments de réponse. Par exemple, il y a des ressources qui nous ont paru beaucoup plus difficilement transférables que d'autres.
Et pourquoi ?
Alors, pour certaines. On pense, mais bon, ça, ce sont encore des hypothèses, mais on pense que il y avait une culture commune autour des objets mathématiques qui étaient travaillés, culture commune aux trois équipes, à tous les professeurs qui étaient présents, en particulier parce que on pensait que les prérequis qui étaient nécessaires pour pouvoir mettre en place cette ressource était suffisamment clair et partagé par l'ensemble des professeurs pour ne pas avoir à revenir dessus. En revanche, pour d'autres, eh bien, il y a des choix pédagogiques et des choix d'ordre mathématique. Je pense à une ressource qui avait été construite autour des triangles semblables de façon générale, enfin, même si c'est pas dit comme ça au niveau de la classe de seconde, mais c'était une ressource fabriquée autour des triangles semblables, et il y avait eu un choix mathématique qui avait été fait par une des équipes de partir de on connaît les transformations et on va définir ce que c'est qu'un triangle semblable et on va arriver à la notion de triangle semblable, et d'autres équipes qui se posaient la question de dire mais non, moi j'ai pas du tout envie de partir comme ça, je veux partir de configurations et à partir des configurations déboucher sur les triangles semblables qui déboucheront sur les transformations. Donc on a des et là alors on s'aperçoit que les ressources étaient plus difficilement partageables parce que ces choix-là qui étaient implicites auraient dû être rendus explicites et d'une façon très précise. Donc voilà, les choix de départ, par exemple, ça c'est une des variables sur lesquelles il y a du travail à faire. Oui, Jean-Marc.
Parce qu'à un moment donné, tu disais que l'apprentissage des maths est étroitement lié à l'apprentissage technologique. Ouais. Et donc, est-ce qu'il y a une évolution dans le temps, en fait, par rapport à ça, à cet apprentissage technologique en liaison avec l'apprentissage des maths ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une évolution dans les consignes à donner aux élèves ? Est-ce que ça a été remarqué ou... Est-ce que c'est quelque chose d'important ou pas ?
Oui, bien sûr, il y a une évolution il y a une genèse instrumentale qui se fait tout au long de l'année, et les demandes qui sont, enfin les explications qui sont données en termes instrumentales sont bien sûr liées à l'avancée des connaissances des élèves. Oui, c'est très clairement, mais ce que je voulais montrer, moi, c'était plutôt le fait que c'est difficile de séparer les choses, c'est-à-dire de séparer la question instrumentale de la question mathématique. On s'aperçoit que c'est trop imbriqué pour qu'on puisse les séparer et dire ça c'est du côté instrumental, ça c'est du côté mathématique. Et par moment, il y avait des questions qu'on pense instrumentales sont en fait par derrière des vraies questions mathématiques et des vraies questions de compréhension mathématique. Et réciproquement, si j'ose dire. Donc on est vraiment dans ce domaine-là. Alors après, qu'il y ait une évolution. Oui, bien sûr, au début de l'année, les élèves qui n'ont jamais vu de géométrie dynamique, ben, il faut leur montrer qu'on peut bouger les points et qu'on a une figure plutôt qu'un dessin fixe, etc. Hein, bon, ça, bien entendu. Mais ce que je voulais pointer en disant ça, c'était plutôt cet aspect-là, c'est-à-dire l'aspect d'interconnexion très très étroit et savoir si c'est de l'ordre instrumental ou si c'est de l'ordre mathématique. Ben, des fois, c'est pas simple. Et donc, du coup, c'est lié l'un à l'autre.
Merci beaucoup à Gilles. On va laisser la parole à Ghislaine.
Alors, je tiens à dire d'abord que j'admire beaucoup la souplesse de Gilles qui a passé successivement dans au moins 3 rôles différents au cours des 2 jours et avec une concentration parfaite dans chaque rôle. Je l'admire d'autant plus que moi, je suis incapable de faire ça. Je suis encore programmée performance et je vais avoir beaucoup de mal sur écume. Donc, je vous demande tout de suite et d'emblée d'être indulgent. Alors, le groupe ECUM en est à sa 2e année de travail et c'est un groupe qui associe l'IREM de Rennes, l'UFM de Bretagne et l'INRP. Et l'acronyme ECUM signifie émergence de communauté d'utilisateurs de maths en poche. Les membres du groupe ECUM, c'est les gens dont vous voyez là apparaître les noms, puis la photo que vous pouvez retrouver évidemment sur EducMath. Alors, je vais d'abord présenter dans un premier temps un petit historique pour resituer quels étaient les objectifs du groupe et puis comment ils ont pu un peu évoluer au cours de ces 2 années de travail presque déjà. Ensuite, je parlerai d'échanges sur les usages de maths en poche. Ici, à chaque fois que j'utilise l'abréviation MEP, hein, vous aurez bien deviné qu'il s'agit de la base d'exercice maths en poche. Et puis, je terminerai sur les questions de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une communauté et qu'est-ce qu'on peut diffuser à l'extérieur. Alors, les objectifs qu'on s'était fixés au départ, c'était, il y avait plusieurs niveaux de travail. À la fois, on voulait impulser, on voulait aussi accompagner et avoir également une position d'analyse sur des dimensions collectives dans les usages de maths en poche. Et c'est lié au fait que dans l'Académie de Rennes, il y a une expérimentation académique, comme dans de nombreuses académies, du logiciel Math en poche avec un serveur dédié. Donc on a une position complètement différente et une problématique qui n'a rien à voir avec celle de Ecolab, puisque a priori il ne s'agit pas pour nous de produire, mais d'essayer de regarder les facteurs qui vont faire que des gens vont communiquer entre eux sur les usages du logiciel, vont se mettre à mutualiser et éventuellement se mettre à créer des communautés. Mais l'idée n'était pas pour nous de fabriquer des ressources à diffuser à personne. On était beaucoup plus dans l'idée de observation des évolutions de communautés. Pourquoi est-ce qu'il nous semble pertinent de faire ça dans le cadre d'une expérimentation académique ? Ben, il y a le serveur académique dans l'Académie de Rennes a ouvert en mars 2006 et là, actuellement, le bilan de janvier 2008 montre qu'il y a quand même de nombreuses personnes qui sont concernées, 586 enseignants inscrits, 263 collèges concernés. Dans notre académie, il y a 577 collèges au total, donc c'est une part importante. 1700 classes enregistrées, 34 000 élèves inscrits, c'est pour donner une idée du fait que, a priori, il y a là tous les facteurs de dimension collective, sachant qu'en plus, Math en poche est un logiciel développé collectivement par une communauté de concepteurs. Donc, ça semble approprié de réfléchir sur les dimensions collectives, de mutualisation possible aussi pour les usages. D'autant plus que lorsque les gens s'inscrivent pour l'utilisation en réseau de maths en poche, c'est-à-dire pour pouvoir constituer leur propre liste d'exercices, ils ont une petite case à remplir qui indique indiquez vos motivations pour être utilisateur réseau. Mais c'est une case petite, hein, c'est pas une case énorme. Tout ce que je dis est sous le contrôle de mes collègues du groupe ECUM, hein, qui sont là, Hélène et François, qui peuvent intervenir quand ils veulent, bien sûr. Alors, on a étudié aussi, c'était pas dans nos objectifs de départ, mais on l'a fait, l'analyse un peu systématique des motivations qui apparaissent dans cette petite case. Alors voilà quelques exemples. La salle multimédia de notre collège ouvre en janvier. Aucun logiciel de maths pour l'instant. Nous comptons utiliser les séries d'exercices de maths en poche pour individualiser le parcours, le rythme de travail des élèves. Bon, je vais pas vous lire tout ce message, d'autant plus que vous l'avez sous les yeux. Qu'est-ce qu'on en retient ? On retient le « nous », le « notre collège ». Cette personne s'inscrit. L'inscription est individuelle. C'est pas un groupe de personnes qui s'inscrit ensemble. C'est une personne, elle s'inscrit. Mais en même temps, dans ses motivations, elle emploie le pluriel. Et on voit bien que dans ce collège, il y a une équipe qui travaille. On évoque en plus une collaboration avec le premier degré. Donc là encore, mutualisation, un travail commun. Et puis, certains usages qui sont pointés comme spécialement intéressants, l'individualisation, les outils associés à MEP, ici les questions de traces en poche. Alors ensuite, un autre enseignant qui s'inscrit, qui dit « Je l'utilise à propos de MEP depuis l'an dernier. Suite à l'information reçue à Vannes le 15 novembre, je souhaiterais pouvoir encadrer davantage le travail de mes élèves. Je participe aussi au groupe de secteur de maths de la ville Q, encadré par Madame A. » Il y a dans notre académie, c'est pas forcément le cas partout, des groupes de secteurs, c'est des groupes d'enseignants de collèges géographiquement voisins qui se réunissent régulièrement pour travailler ensemble, mais sur des sujets qui peuvent varier. Donc ici, le groupe de secteur a intégré dans son vivier de ressources maths en poche et s'est mis à travailler dessus. D'où l'idée pour nous. Une fois qu'on avait fait ce constat, qu'il existait à l'intérieur de certaines communautés un travail collectif intégrant maths en poche, l'idée de mettre en place un dispositif d'accompagnement avec la dimension d'une possibilité de communication, une liste de diffusion, qu'on appelle la liste écume, qui permette d'aller au-delà d'usages collectifs à l'intérieur de communautés déjà établies. Donc, de communiquer avec des enseignants isolés, de permettre la diffusion extérieure de travaux faits à l'intérieur de communautés, et puis on voulait également observer la possibilité d'émergence de communautés à l'intérieur même des personnes inscrites sur la liste de diffusion. Et d'autre part, on a effectué des rencontres avec des communautés déjà existantes, équipes d'établissement et groupes de secteur, pour observer quel était leur travail collectif autour de maths en poche. Et ces rencontres avaient aussi la vocation d'incitation à participer aux échanges sur la liste. Alors, il y a une troisième chose dont j'ai pas parlé là, c'est qu'au départ, on voulait mettre en place un forum qui soit, lui, ouvert à tout le monde. Tous les enseignants de mathématiques, qu'ils soient utilisateurs ou pas de maths en poche, avaient accès à ce forum. Alors ça n'a pas marché du tout. Personne ne participait à notre forum. On l'a assez vite laissé tomber. La liste de diffusion, elle est assez restreinte. C'est nous qui avons choisi qui allait y participer. Et je vais précisément regarder cette liste maintenant. Pour le moment, sur cette liste, il y a 82 abonnés qui ont tous été donc contactés par le groupe. Alors, 82, je reviendrai sur ce chiffre après. C'est plutôt, en fait, il faudrait considérer une soixantaine d'abonnés. Sur cette liste, eh ben, il y a des gens qui s'écrivent et qui disent des choses sur les usages de maths en poche. Alors, on a suivi les contenus de ces messages et on en fait l'analyse message par message et par ensemble de messages qui constituent un fil de discussion. Ce qu'on appelle un fil de discussion, c'est un ensemble d'au moins trois messages qui sont liés en termes d'échange. C'est pas un fil en termes de « je fais répondre à tous », etc. Parce que ça n'a pas de sens. Des fois, on clique « répondre » pour plus de facilité, pour pas retaper des adresses, mais ce qu'on dit n'a pas de rapport avec le message auquel on répond. Donc, on a défini cette notion de fil par rapport à un lien dans les contenus. Alors, on étudie ces messages de trois points de vue. On regarde le contenu du message. Alors, le contenu, c'est à la fois le contenu mathématique, les thèmes, les notions plus précises, mais aussi les objectifs affichés par l'enseignant, si ces objectifs apparaissent dans son message. Le point de vue des usages et le point de vue des échanges, ça, je vais y revenir tout de suite. Parce que ça mérite un tout petit peu plus de détails. Alors, du point de vue des usages, On introduit une distinction, c'est en fait une distinction qu'on a pas mal travaillé avec Luc Trouche à l'occasion de l'école d'été qui a eu lieu l'an dernier. On distingue des choses qui sont relatives à un usage général de choses qu'on va appeler une utilisation ponctuelle. Donc un usage, c'est quelque chose qui témoigne d'une pratique régulière. Par exemple, je mets mes élèves en individuel sur un poste. Ça n'est pas forcément relié au fait que l'enseignant va travailler dans telle classe, sur tel thème mathématique. En revanche, un enseignant peut, dans son message, simplement dire « Voilà, vendredi dernier, j'ai travaillé sur les quadrilatères avec des cinquièmes. » Et dans ce cas-là, on parlera d'une utilisation. On relève les caractéristiques, organisation de classe, traces écrites, est-ce qu'il y a de la différenciation. Quand c'est une utilisation, on regarde si l'enseignant à témoigner de ce qui s'est passé dans la classe, s'il propose une analyse critique des choix qu'il avait faits. Et on regarde aussi tout ce qui est possibilité de collaboration, transmission, appropriation de choses qui ont été évoquées sur la liste. Les trois axes d'analyse des messages ne sont pas disjoints, forcément. Il y a des recoupements et en particulier ce qui est appropriation va se retrouver du côté des usages et du côté aussi des échanges. Alors dans les échanges, il y a deux entrées principales, l'entrée qu'on appelle requête et l'entrée référence. L'entrée requête, c'est ce que la personne demande en envoyant son message. Est-ce qu'elle demande une aide technique? Est-ce qu'elle exprime une opinion? Est-ce qu'elle demande une coopération a priori? Bon, je vais utiliser ma tampoche sur la symétrie. Est-ce que vous avez des expériences là-dessus? Est-ce que vous pouvez m'aider? Ou a posteriori, j'ai fait telle chose, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, la requête peut être une requête de travail collaboratif. La référence, c'est quel est le lien de contenu entre le message qui est envoyé et le message auquel on se réfère. Est-ce que c'est l'objet précis du message? Est-ce que on a élargi l'objet, rajouté un nouvel objet? Je montre tout de suite un exemple pour... Alors là, vous allez pas voir forcément le texte du message, mais je vais vous raconter. Donc, c'est une collègue qui répond à un message. Merci à Cécile d'avoir relancé la liste. Alors Cécile racontait dans son message une séance avec des cinquièmes. Je n'ai pas de cinquième, je note l'idée de complémentarité entre le travail avec MEP sur ordi et le travail papier. Donc on voit ici qu'il y a une appropriation mais qui n'est pas encore effective, mais simplement retenir une idée qui a été exprimée sur la liste. Et puis la collègue passe à un autre thème. Elle a trois classes de quatrième et elle compte utiliser maths en poche. Elle demande des idées générales sur l'utilisation en quatrième. Ensuite, ça se précise, elle mentionne un usage, un élève par poste. Un élève par poste à cause de sa contrainte de salle multimédia, sa contrainte deux séances à chaque fois. Elle réfère à... aux échanges qui peuvent avoir lieu sur la liste et à l'envie qu'elle aurait de profiter d'échanges un peu généraux. Et puis, elle arrive sur un sujet assez précis qui est les nombres relatifs sur en classe de quatrième. Alors, je vais peut-être avoir le fil global après. Ce message était en fait le deuxième d'un fil. Et la discussion après s'est beaucoup structurée autour de ce message-là. D'une part, sur ce contenu des relatifs en quatrième, qu'est-ce qu'on peut faire avec maths en poche sur les relatifs en quatrième. Et d'autre part, sur les usages, est-ce que c'est bien de faire un élève par poste ou plutôt deux élèves, ça peut apporter des choses, etc. Alors, avec nos analyses de messages, qu'est-ce qu'on veut faire? Il y a une partie d'analyse quantitative. Quels sont les thèmes qui sont plus abordés? Quels sont les objectifs les plus fréquents? Est-ce qu'on parle beaucoup de différenciation, les organisations de classe, etc.? Et au-delà de ces analyses quantitatives, il nous semble intéressant de faire l'analyse de fil de discussion plus qualitative pour savoir... dans un fil, il y a combien de participants, comment se sont faits les échanges, quels sont les contenus. On répertorie les fils dans un tableau. Bon, un tableau que je vais vous montrer, mais il faut que je sorte 5 minutes du diaporama. Voilà. pour un fil donné. Ici, le fil a commencé le 25 septembre et puis il y a eu sept messages dedans et on regarde qui les a émis. Alors vous voyez que les profs travaillent tard le soir hein, pour répondre à la liste, à part les membres du groupe Écume, Hélène qui est là, qui elle peut travailler dans la journée plus facilement. Mais il faut souligner quand même les difficultés pour des enseignants de collège, le temps que ça représente d'échanger sur une liste de diffusion, c'est quand même pas facile. Donc là c'est un tableau récapitulatif global qui contient toutes nos entrées. Et qui permet de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé sur un fil pour caractériser sa dynamique. Donc là, le fil dont était extrait le message dont j'ai parlé tout à l'heure, je vais repasser quand même en diaporama, ce sera plus joli. Là, j'avais anticipé là-dessus. Ce fil-là s'est structuré autour de cette histoire du choix de faire un élève par poste ou deux élèves par poste, le fait de donner des traces papier aux élèves sur poste informatique, hein, ça rejoint des choses qu'on avait discutées dans l'atelier hier, et puis le contenu. Et le fil s'est arrêté, on ne sait pas exactement expliquer pourquoi un fil s'arrête ici. Il s'est arrêté quand il y a quelqu'un qui a dit « moi j'ai utilisé ma temps poche pour les relatifs en quatrième ». En même temps, le message ne disait pas grand-chose, mais ça a stoppé le fil, d'autant plus que la collègue qui a envoyé ce dernier message a relancé une autre piste qui était l'utilisation de MEP pour l'évaluation et le contenu parallélogramme en cinquième. Voilà un peu le genre d'analyse qu'on fait par rapport à la liste. Et puis, il y a un autre aspect dans notre travail, c'est regarder ces liens entre mutualisation à l'intérieur d'une communauté et qu'est-ce qui peut se diffuser à l'extérieur. Donc, dans l'Académie de Rennes, il y a pas mal de communautés, dont certaines sont des communautés de pratique assez clairement, d'autres pour lesquelles c'est moins net. Et il y en avait qui existaient avant qu'on commence à travailler. Il y avait des groupes de recherche, des équipes d'établissement, des groupes de stagiaires qui avaient suivi des stages ou des informations sur maths en poche. Il y avait des gens de Césamat qui travaillent dans l'Académie de Rennes. Et puis après, sur le serveur académique, il y a eu aussi des groupes de gens. Ceux qui sont inscrits sur le serveur font partie d'une liste aussi. Le groupe Écume qui est le nôtre et qui est sans nul doute une communauté de pratique, les gens de la liste, du forum, bon, et des rencontres qu'on a effectuées. Dans la liste, il y a un espace de dépôt de documents. Il n'y a pas simplement le fait d'envoyer des messages. Alors ici, il y a l'air d'y avoir un certain nombre de documents. De fait, il y en a pas mal. Mais ces ressources qui sont sur la liste. Alors ici, je ne vais pas le montrer parce que de toute façon, je ne suis pas bien sûre que ça marcherait les liens. Il y a une séquence avec un plan de séquence décrit. Il y a des fiches élèves, sauf que la personne qui a envoyé ça est un membre de notre groupe. Et en dehors des membres de notre groupe Écume, peu de gens déposent des documents sur la liste. Et pourtant, des documents, il en existe beaucoup. Quand on fait des rencontres avec des communautés, on voit des communautés qui ont intégré MEP dans leur répertoire. Ça, c'est le vocabulaire des communautés de pratique, ou on va dire plutôt vivier, puisque le mot est couramment utilisé ici. Là, je donne un exemple d'une rencontre dans un collège qui a mis en place un dispositif pour les cinquièmes. C'est un collège assez important, il y a 6 classes de cinquième. Et elles sont partagées entre 3 enseignants, chacun a 2 classes. Ils ont obtenu une heure de dédoublement, qui fait que les élèves peuvent aller en demi-classe en salle multimédia, sinon ils peuvent pas aller sur les postes, parce que quand ils mettent des élèves sur les postes et puis des autres à l'intérieur de la salle multimédia sur les tables, comme c'est un collège assez difficile, c'est impossible de tenir, tout simplement. Donc, avec l'horreur de dédoublement, ça devient possible. 2 enseignants encadrent la classe à ce moment-là. Et tous les contenus pour les 6 classes sont les mêmes. Les enseignants les préparent ensemble. Donc, il y a des fichiers, ils sont déposés. Et ce sont des gens avec qui on est en contact. ces fichiers, il faut cependant relever que c'est pas un fichier qui décrit une progression ou une séquence. C'est des fiches élèves qu'ils fabriquent ensemble. Mais de fait, comme ils se voient, ils n'ont pas forcément besoin de décrire la séquence. Et en plus, comme c'est sur un temps assez long, ils adaptent petit à petit. Au départ, ils ont une idée avec un thème mathématique, certains outils informatiques, mais ils préparent petit à petit ensemble. C'est des enseignants qui se connaissent bien. Ils déjeunent ensemble tous les mercredis midi et puis le mercredi après-midi, ils fabriquent leur séance pour la semaine d'après. Et ces enseignants sont inscrits sur la liste, mais ils n'ont pas voulu déposer de documents relatifs à leur projet. Ils veulent bien de temps en temps envoyer un message, mais pas déposer de documents. Alors, pourquoi ? Parce que ben, ils trouvent que c'est très long à faire de déposer un document, de décrire vraiment les séances. Et puis aussi... À chaque fois qu'ils font une séance, ils ont envie de la remodifier. Donc ils disent, ben oui, mais si on dépose, on va décrire quelque chose, alors que la prochaine fois, on aura envie de changer, on n'a pas envie de laisser de traces de cette chose-là qu'on va modifier. Et pourtant, on a toujours des... On a eu de cette communauté-là et d'autres des retours, ah oui, en nous disant, c'est vraiment intéressant, là, les documents sur la liste, ah oui, on a vu, oui, on a récupéré celui-là, on va l'utiliser... ce qui n'empêche qu'ils n'ont pas envie, eux, de déposer ce qu'ils ont fait. Alors, du coup, le rôle de la liste a commencé à évoluer parce que les gens sont assez demandeurs de formation, finalement. Et lors des rencontres, ils nous demandent, hein, ils demandent qu'on leur montre des possibilités de maths en poche, des choses comme ça. Donc je reviens sur le nombre là de 82. En fait, il y a une soixantaine. Et puis François, qui anime en ce moment une formation, a créé un espace sur la liste pour les stagiaires. Tu pourras dire un mot si tu veux là-dessus. Dans le cadre de cette formation-là. Et de fait aussi, les membres de ECUM ont participé à l'élaboration du parcours performance C2MATIC Rennes. Donc, finalement, on est en train d'avoir une évolution du rôle de cette liste-là pour aller vers un emploi plus encadré en formation, parce que en laissant les choses ouvertes pour que chacun dépose ce qu'il a... envie de déposer, ben finalement il y a tellement de freins que ça ne donne pas un dépôt très riche de documents, même s'il y a manifestement des échanges. Voilà.
Ça marche ? Oui, ça marche. Oui, vous avez constaté que ben, il y avait des difficultés à partager apparemment, ou à diffuser les ressources avec les raisons proposées. Là, vous avez des idées pour faire évoluer ça ?
Bah, l'idée, c'est celle qui apparaît là encore ici, c'est-à-dire que les gens qui appartiennent déjà à une communauté formée comme une équipe d'établissement ou comme un groupe de secteur sont satisfaits de leur communication interne. Donc finalement, s'ils vont chercher quelque chose à l'extérieur de leur communauté, ça sera plutôt dans une attente de formation. Et c'est pour ça que la liste nous paraît un bon support ou un bon outil d'accompagnement des formations. Demander aux gens de créer ensemble des choses et de les déposer sur l'espace de la liste, tout en laissant la liste ouverte aux utilisateurs qui ne sont pas en formation et qui vont pouvoir s'insérer éventuellement dans ces échanges-là.
Est-ce que vous avez beaucoup de, au niveau des échanges analysés, beaucoup de questions sur le contenu des exercices ? On voit passer de temps en temps qu'ils reviennent de Rennes quelques retours de bugs. François, enfin, on fait tout ça, on fait remonter sur la liste des développeurs de maths en poche quand on nous dit qu'il y a un bug dans tel exo. Mais finalement, moi, au niveau de l'Académie de Bordeaux, je n'ai absolument aucune remarque en termes de contenu. Bon, toi, tu m'avais interrogé au sujet du sinus moins 1, on a eu quelques échanges, mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas eu de... À part ça, il y a eu d'autres choses ou pas ?
Alors, il y a eu quelques questions dont je vois bien dans ta question, mais je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, que effectivement, quand on dit question sur le contenu, ce n'est pas pour dire, pour identifier un bug technique. C'est, voilà vos choix mathématiques, on les remet en cause, et à ceci, et à cela. Ça, il y en a. Hein, c'est Hélène, étant la spécialiste du contenu, va pouvoir peut-être dire des choses là-dessus. Mais il y a certains messages où effectivement il y a des choses pointées sur les choix mathématiques faits.
C'est vrai que sur les contenus, bon, bah là, on ne pourra pas vous montrer les messages des uns et des autres, mais parfois, il y a des réflexions sur le fait que la personne s'approprie facilement ou non, ou trouve adéquat, pertinent les exercices proposés par Math en Poche. Mais c'est vrai que ce n'est pas une réflexion quand même courante. C'est sur quelques messages que ça a pu apparaître, et voilà.
Oui, il y a un aspect, y compris par rapport aux ressources que nous, on dépose dans l'espace de la liste. Oui.
J'avais juste une question au niveau des liens avec les autres communautés, et notamment parce qu'il y a des expérimentations dans d'autres académies, pour Montpellier, pour ne pas le citer, mais Créteil, etc. Et le lien avec la commission C2 Math en Poche, est-ce qu'il y a eu des actions vers cette commission pour présenter un petit peu le travail ou ce genre de choses, quoi.
Malheureusement, on n'a pas évoqué l'histoire, l'historique et puis le devenir de l'ECUM cette année à la commission inter-IRM. L'an dernier, comme vous l'a expliqué Ghislaine, les objectifs de la liste, les objectifs du groupe ont un peu évolué. Donc l'an dernier, ce que nous avons exposé à la commission inter-IRM, c'est pas la même chose cette année, les objectifs ont évolué, quoi.
C'est-à-dire que sur le site de la commission, on a un espace Rennes, mais l'espace Rennes correspond plus au travail d'un précédent groupe qui avait travaillé sur la proportionnalité, Math en Poche avec la proportionnalité. Alors c'est plus dans ce sens-là que les ressources qui sont sur le site de la commission sont intégrées dans la liste. Elles doivent figurer aussi sur les ressources de la liste ECUM.
Je crois que j'ai pas bien compris. J'ai compris que le besoin de faire une distinction entre usage général et utilisation ponctuelle, mais est-ce que pour ces groupes-là, pour cette communauté, et surtout par la participation à la liste, il y a les enseignants plus dans l'usage général ou plus ponctuel, ou il y a un peu...
Alors ça, c'est par rapport à une analyse quantitative, et j'en ai pas parlé là simplement parce qu'on est en cours de dépouillement de tous ces messages. Dans l'analyse quantitative qu'on avait pu faire sur les messages de l'année dernière, on avait noté que les usages généraux déclenchaient des discussions peut-être un peu plus, ou plus de gens prenaient part, parce que il n'y avait pas besoin de s'approprier une utilisation particulière que quelqu'un avait fait. Bon, c'est les hypothèses qu'on peut faire là-dessus. Il y a eu une longue discussion l'an dernier sur un ou deux par poste. Ça avait été un fil sur lequel s'étaient investis pas mal de gens et qui avaient des arguments pour, des arguments contre, et visiblement des pratiques déjà assez intégrées. Bon, c'est peut-être plus simple de participer à une discussion sur quelque chose comme ça que de dire bon, les parallélogrammes en cinquième, j'ai fait ça, d'écrire une séance et que quelqu'un réagisse là-dessus. Il faut voir aussi une chose dont on n'avait peut-être pas pris conscience au départ, c'est que le contenu de Math en Poche est extrêmement vaste et extrêmement récent, puisque le niveau 3e, mine de rien, il a été fini l'an dernier. Donc, quand il passe un appel sur la liste du genre les prismes, est-ce que vous avez travaillé ça, il est tout à fait possible que sur les 60 personnes de la liste, jamais personne ne soit allé regarder les prismes. Donc, c'est pas forcément facile pour les gens de répondre sur cette chose ponctuelle. Tandis que si on a une discussion un ou deux élèves par poste, eh ben chacun, à un moment, s'est posé cette question-là.
Oui, juste une question que je t'avais déjà posée hier soir. C'est sur l'analyse justement des usages Math en Poche par rapport à l'utilisation des aides animées Math en Poche. Donc là, c'est quand même très intéressant. 34 000 élèves inscrits donc qui utilisent régulièrement ces animations. Sans parler des autres académies au niveau national, est-ce qu'il y a des remontées que vous avez eues à ce niveau, ou est-ce que vous avez peut-être quelque chose à dire là-dessus, quoi, sur est-ce que ces animations sont adaptées aux apprentissages visés ou pas, est-ce que c'est intéressant ou pas. Il y a aussi un problème qui est récurrent, c'est comment des élèves développent des stratégies pour répondre à des exercices particulièrement de Math en Poche. C'est-à-dire, à un moment, ils ne regardent plus les animations, ils ne regardent même plus l'énoncé, ils cliquent, et puis il y a une chance sur trois d'avoir juste, voilà. Voilà, c'est juste par rapport à ces deux problématiques.
Alors, il y a deux choses sur les aides animées. D'abord, dans la perspective du groupe Écume, c'est vrai qu'on s'est quand même intéressé plus aux enseignants qu'aux élèves. Donc sur les aides animées, on a des choses à dire par rapport à l'usage que les enseignants en font et au détournement assez fréquent qu'on peut observer de l'aide pour faire court. D'ailleurs maintenant, les aides de maths en poche sont disponibles sur une page qui permet au prof de lancer l'aide sans aller dans un exercice et faire une erreur pour que l'aide sorte. Et si ça a été réalisé, cette page, c'est bien parce que les profs utilisent les aides pour faire cours. Et là, il y aurait pas mal de choses à dire et de questions à poser sur cette pratique-là, à voir. Ensuite, sur les élèves, là, je vais dépasser un peu peut-être le cadre du groupe Écume et revenir en arrière sur le groupe précédent qui s'appelait Hyperpro, qui a travaillé sur la proportionnalité et où là, on a regardé de près l'usage des aides par les élèves et les apprentissages qu'ils réalisaient, les stratégies de détournement, etc., sur le thème particulier de la proportionnalité. Comme je vais déjà te refaire la réponse d'hier soir, puisque tout le monde n'était pas là, c'est que il y a quand même des aides qui sont plus ou moins appropriées suivant les exercices. Et nous, on est resté quand même sur l'idée que d'avoir une aide un peu générique, finalement, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. L'élève va être rebuté assez tôt. Il va se rendre compte que pour toutes les questions d'un exercice, il a accès à la même aide. Donc, il va assez rapidement refermer l'aide, mais peut-être qu'un petit peu plus tard, ou avec une incitation du professeur, il y reviendra. Et ça incite l'élève à généraliser, à décontextualiser, en se disant, ben, en quoi cette chose-là va m'aider pour toutes ces différentes questions? Plutôt que d'aller vers des aides vraiment ciblées pour chaque question, qui finalement finissent par décrire une méthode pour chacune des questions, ce qui est moins riche du point de vue de l'aide. Bon. Et puis, ensuite, sur les histoires de détournement, effectivement, à partir du moment où ce qu'on attend, c'est une réponse numérique, il peut y avoir des détournements, peut-être plus que dans le cadre papier-crayon. Maintenant, ça incite à travailler justement les usages pour qu'il y ait des traces papier-crayon complémentaires qui permettent au professeur d'accéder à la procédure de l'élève, ce que Math en Poche ne permet pas.
Avec les développeurs de Math en Poche là, qui sont en train de réfléchir à la mise en place d'un nouveau modèle d'exercice, notamment où tous les textes seraient externalisés pour permettre justement à des communautés de traduire. Au sujet des aides, on se pose réellement la question, puisqu'on voit bien au niveau des usages que les gamins ont tendance à ouvrir, fermer l'aide et quasiment jamais la regarder. On se pose la question s'il ne faut pas recompiler l'ensemble des aides en fait qui sont dans Math en Poche dans une seule aide, un peu comme, alors je ne sais pas si des gens connaissent les aides du chapitre IBEPS, qui sont ici des exercices de brevet corrigés animés. Donc l'élève, c'est pas un exercice interactif au sens où il saisit la réponse, mais il a un exercice de brevet des collèges, il a la solution à chaque question et il y a un bouton le cours. Et sous-entendu, l'élève fait l'exercice sur papier et regarde la correction à l'ordinateur. Mais il a un bouton le cours. Si on prend le bouton le cours sur les vecteurs, en fait, on voit les vecteurs construction, les vecteurs repérage. Donc on retrouve toutes les aides qui sont ensuite déclinées dans Math en Poche, mais plus ciblées suivant les exercices. Alors est-ce qu'il aurait mieux pas valu faire les aides comme ça dans Math en Poche, c'est-à-dire faire une aide parallélogramme en cinquième, et ensuite avec des sous-thèmes, les constructions, les propriétés directes, les propriétés caractéristiques, etc., etc. Si les didacticiens ont une réponse à nous apporter là-dessus...
On a des apports, une réponse non, des éléments de réponse on en a, oui.
Enfin, moi ce que je voulais dire, je ne sais pas si ce sera du côté didactique, mais en tous les cas, c'est vrai que l'utilisation de l'aide, on a pu l'observer en classe, mais souvent Math en Poche est utilisée par les professeurs pour aussi faire des devoirs à la maison. Et donc, dans ce cas-là, ben, peut-être que l'aide est utilisée autrement et lue davantage, parce que les élèves ont plus de temps, etc. Et puis, du coup, ils ne peuvent pas faire référence au prof. Donc, automatiquement, ils sont peut-être plus enclins à les utiliser. Donc, je pense qu'avoir des aides ponctuelles permet quand même d'enrichir les possibilités. Après, de toute façon, puisqu'elles sont rassemblées à un endroit particulier, l'enseignant peut aussi les utiliser comme il en a... envie. Mais pour l'élève, tout dépend. S'il est en classe, s'il est à la maison, il va utiliser, je pense, ses aides différemment.
L'enseignant pourra choisir, dans sa séance d'exercice, que l'aide soit visible ou pas visible. C'est-à-dire que s'il veut fonctionner en évaluation, on peut imaginer certains exercices pour voir où ils en sont sur telle compétence du socle ou n'importe quoi. L'enseignant pourra choisir qu'il n'y ait pas de bouton aide. C'est un paramètre dans le nouveau modèle.
Sur les... Non, attends, mais moi j'ai... Alors, les didacticiens, tu peux factoriser là, on n'a pas une réponse toute faite qui tient en 10 secondes. On a des choses à dire, on a travaillé, alors c'est un autre cadre dans le cadre de l'enseignement supérieur, sur des ressources en ligne pour l'enseignement supérieur, et on a essayé de mettre tout un panel d'aides de différentes sortes, mais dans tous les cas, ça ne peut pas se considérer indépendamment des usages qui sont faits. C'est ça le problème, c'est que tu vas concevoir l'aide d'un point de vue de concepteur avec bien souvent un usage particulier déjà en tête.